Bonjour Jeanne Lévédère.
Bonjour.
Alors Jeanne, tu es la cofondatrice avec Marcus Dupont-Bénard de la revue Anticipation, enfin plus précisément de la revue livre Anticipation, basée sur des enquêtes journalistiques de temps long et des retranscriptions complètes d'entretiens. Anticipation, je cite, nous plonge dans le monde de demain avec l'objectif d'apporter une multitude de regards et de clés de compréhension sur les futurs possibles pour mieux saisir les enjeux actuels qui traversent nos sociétés. Vous combinez la rigueur de la science avec l'imaginaire de la science-fiction. Fin de citation. Un très beau programme. Pour commencer, Jeanne, d'où est venue l'idée d'une telle revue ? Est-ce que vous connaissiez avec Marcus avant et c'est venu au fil des discussions ? Est-ce que ça part de l'intérêt pour la thématique ? D'où ça vient cette idée ?
Ça a commencé à la fac, en fait. Avec Marcus, on était tous les deux en master de théorie politique à l'université de Rennes 1. Et du coup en sciences politiques, et on s'est rencontrés en fait sur les bancs de la fac, et on s'est rendu compte qu'on avait la même passion pour les sciences, mais surtout aussi la littérature de science-fiction. Et Marcus, à l'époque, il dirigeait une petite émission de radio à Radio Laser, une radio au sud de Rennes, et il m'a proposé d'intégrer cette radio-là pour son émission, pour pouvoir faire des chroniques sur la littérature de science-fiction. Et puis on s'amusait bien, on continuait à faire des interviews ensemble aussi, d'auteurs, d'autrices, et puis on s'est dit tiens, ah, ce serait cool de pousser le truc un peu plus loin. Et Marcus avait depuis longtemps la petite idée de faire quelque chose en format écrit, aussi de passer de la radio à l'écrit et de créer une revue en fait sur la science à la base. Et puis plus ça allait, plus ça dérivait sur la science-fiction. Et puis en fait, on a commencé à faire des entretiens et puis la forme a commencé à se définir d'une revue avec une succession d'entretiens, de regards sur à chaque fois une grande thématique précise liée au futur possible.
Alors on va en parler, mais comme tu viens de le dire, donc tu étais en théorie politique, tu es diplômé d'un master en théorie politique. Alors par curiosité comme ça, et puis pour démystifier un peu la science politique, surtout la science politique à la fac, tes recherches portent donc sur les dimensions politiques et historiques de la science-fiction, et tu as travaillé notamment sur l'évolution des représentations du totalisme dans cette littérature dans les années 30 et 50. Est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots sur ces recherches, quelle forme ça prenait ?
Je me suis basée sur des bouquins, en fait, sur un ensemble de livres qui ont été écrits entre 1932 et 1953 et qui reprenaient les codes du totalitarisme et qui les mettaient en scène, en fait, dans des romans, du coup, de proto-science-fiction. Le terme n'était pas encore arrivé à l'époque, c'était plus de la littérature d'anticipation qu'on appelait ça. On a des exemples très connus comme 1984 de George Orwell ou Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Et il y en avait quelques-uns, plusieurs autres comme ça, il y avait 8 bouquins. Et du coup, j'étudiais ces bouquins les uns après les autres pour essayer de capter les différentes représentations du totalitarisme qu'on retrouvait dans ces livres. Par exemple, en fait, mon hypothèse de recherche, c'était que dans les années 30, le totalitarisme était plus une retranscription d'une vision critique du fascisme qui naissait en Italie et aussi en Allemagne nazie. Et que dans les années 40, ça commençait à prendre une tournure un peu plus critique du modèle totalitaire de l'URSS, en fait. Et donc ça, c'était mon hypothèse de départ. Et puis je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure aussi, il y avait une autre critique qui commençait à formuler dans les années 50, qui était plus une critique d'un totalitarisme qui viendrait des États-Unis, qui serait plus un totalitarisme de la machine, en fait, et de ces mondes d'ingénieurs qui commencent à faire des mondes complètement fous, en fait, où la machine s'emballe et puis l'humanité se fait écraser par ce rouleau compresseur-là. Donc, et puis oui, ce serait plutôt un totalitarisme presque libéral, en fait, de la société libérale américaine. Donc voilà, c'était l'ensemble de mon mémoire se basait sur ce corpus de bouquins qui retraduisait cette évolution.
D'accord. Et donc du coup, pour revenir à Anticipation, moi je me posais la question, pourquoi avoir choisi un tel format qui est celui de la revue livre ? Je crois que nos amis anglo-saxons appellent ça MOOC pour la fusion de magazine et de book. Ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Pourquoi ce format précisément ?
On le défend pas comme un MOOC pour le coup, mais en fait ce qu'on voudrait... On voulait quelque chose de très journalistique quand même, parce que c'est ce qui nous intéressait à la base. On est tous les deux journalistes en fait avec Marcus et c'était un peu dans cette vibe-là, d'interviewer des personnes, de croiser des regards, mais au-delà par des entretiens. Mais on aimait bien aussi le principe du livre d'enquête, que font d'ailleurs certains journalistes, et qui sont parfois édités, et qui permettent de retranscrire l'évolution d'une réflexion sur un sujet. Anticipation, c'est une revue qui se lit du début à la fin. On peut pas... Bon, il y en a quelques-uns, des fois, qui vont sauter à lire un entretien au milieu, mais en fait, ça n'a pas trop de sens. Il faut suivre une évolution, parce qu'en fait, on a des parties introductives aussi de chaque chapitre, une évolution de la pensée en fait au travers de cette revue. Du coup, on défend le format un peu revue-livre, qui est un format un peu hybride, pas toujours facile à défendre d'ailleurs des fois, mais qui permet un peu entre deux. Et puis on est tous les deux très attachés aux livres en fait aussi. On est des grands lecteurs, lectrices, et du coup c'était aussi cet aspect-là. On a des petits bouquins qui peuvent se transporter dans la poche presque. Bon, peut-être pas dans la poche, mais dans des petits sacs. Donc on avait envie d'avoir ce rapport-là aussi à l'objet.
Et puis peut-être parce que aussi c'est un médium qui permet peut-être de prendre le temps et de lutter un peu contre le flot d'informations un peu rapide. Enfin, je voulais aussi lier ça un peu à la crise, on va dire, de la presse, parce que voilà, se lancer dans quelque chose comme ça, vu la situation actuelle, on peut se dire que c'est compliqué, mais est-ce que justement ouais, ce format-là, là où par exemple même le temps mis long, on va dire des hebdomadaires, des mensuels, même là où il y a un peu de mal, est-ce que justement une revue livre comme ça peut aider à ça aussi peut-être?
Ouais, carrément. Bah, on appelle ça un irrégulomadaire en fait. On le publie quand il est prêt, en fait, quand l'enquête est finie. Et du coup, bah, des fois, ça prend un an, des fois, c'est un an et demi, des fois, c'est 6 mois. Enfin, ça dépend vraiment. Et c'est à chaque fois... l'avantage, c'est qu'on est en auto-édition. Du coup, en fait, on n'a pas trop le souci des éditeurs derrière qui nous disent « Bon, allez, dépêchez-vous, il faut une régularité. » Nous, on s'en fiche. On part du principe que les gens, s'ils aiment bien notre revue, ils vont la racheter, peu importe si elle met 6 mois à paraître. Et justement, ouais, on est très attachés à une presse comme ça de... On la défend vraiment dans nos pratiques aussi journalistiques au quotidien, d'une presse qui prend le temps de réfléchir, de mener des réflexions profondes sur chaque sujet et de pas être tout le temps dans la publication incessante sans prendre le temps de prendre du recul, quoi.
Et donc du coup, à propos donc de la parution, tu parlais d'irrégulomadaire, on va garder ce terme-là, je le redis. Donc il y a eu le premier numéro en 2018, le deuxième en 2019 et le troisième donc en 2021, qui est consacré au monde post-apocalyptique, sous-titré « Après la fin, le renouveau ». Le premier numéro était consacré à l'humanité augmentée et le deuxième à l'Odyssée spatiale. Comment vous préparez un numéro comme ça? Est-ce que vous travaillez que à deux? Comment ça s'organise? Comment vous décidez du sujet, par exemple?
Bah, le sujet, c'est des grosses discussions en général. Bah, là, on vient de caler tous les deux, mais c'est pas officiel encore, mais le sujet du numéro 4. Qui paraîtra ensuite. Mais c'est des discussions en fait, et c'est en fonction de nos affinités du moment, de ce qui nous semble plus ou moins opportun. On essaie de changer un peu d'univers entre le transhumanisme, l'Odyssée spatiale et les mondes post-apocalyptiques. On est sur des univers très différents. Et du coup, on aime bien aussi un peu emmener nos lecteurs, lectrices sur différentes thématiques en fait. Et ça se fait vraiment au fur et à mesure des discussions, parce qu'on sait qu'on va passer quand même des mois sur cette enquête. Donc on a envie que ce soit un sujet qui nous botte tous les deux. Et du coup, on se réunit de temps en temps. Là, c'était compliqué avec le Covid, pour le coup. Pendant presque un an et demi, on ne s'est pas vus. On parlait que en visio. C'était l'enfer. Là, du coup, on commence à pouvoir se revoir et bosser ensemble. C'est agréable. Et on est tous les deux... on écrit, en fait, la première phase de l'enquête d'écriture et de réflexion et de recherche sur le sujet. On n'est vraiment que tous les deux. Et ensuite, on a un petit coup de main pour tout ce qui est, des fois, relecture. Parce que c'est important d'avoir un regard neuf de quelqu'un sur le sujet. Parce que nous, on ne voit plus les fautes d'orthographe, toutes ces petites choses, même des fautes d'édition, en fait, aussi. Et du coup, on a des petits coups de main des copains sur cet aspect-là.
Et donc, comment ça s'organise à l'intérieur de la revue? Qu'est-ce qu'on trouve comme format, justement, d'écrit? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette revue Anticipation?
Bah, c'est une succession d'entretiens, en fait, autour de la thématique. Donc on mène des entretiens en faisant notre enquête, en disant bon, tel sujet ce serait intéressant. Par exemple sur le numéro 3 sur le post-apocalyptique, on a aussi bien des chercheurs et chercheuses universitaires qui ont réfléchi à la question de cette littérature et qu'est-ce qu'elle porte comme message. On a aussi par exemple deux personnes qui ont travaillé auprès des réfugiés, en fait des personnes réfugiées, parce que c'est une grosse thématique du post-apocalyptique, c'est des personnes qui perdent leur habitat et qui du coup doivent migrer. On a aussi, par exemple, Pablo Servigne, qui est du coup plutôt un chercheur qui parle beaucoup de l'effondrement et de ces thématiques-là. On a aussi des scientifiques. On mélange un peu tous ces regards-là, en fait. Et après, on fait notre petit puzzle pour savoir qu'est-ce qui serait mieux en premier, qu'est-ce qui est le plus cohérent en fonction des réponses qui sont apportées.
Et donc, dans les interviews, on retrouve aussi des noms... connu du grand public, donc on a eu, notamment dans le dernier numéro, le youtubeur Mamie Twink, il y a eu l'auteur de science-fiction Alain Damasio, Natacha Polony ou encore notre Thomas Pesquet National qui est revenu parmi nous. Est-ce que, je me posais la question comme ça, est-ce que quand on est une revue comme ça naissante, est-ce que l'accès à des personnalités, comme on va dire, très connues, sans entrer dans le people, mais est-ce que c'est compliqué ou est-ce que justement les gens se prêtent volontiers à ça?
Ça dépend vraiment des personnes, en fait. Par exemple, Thomas Pesquet, que tu as cité, très facile. Enfin, bon, c'est pas évident d'avoir accès à lui directement, mais il est tellement adorable et tellement ça lui plaît, ce genre de projet. Du coup, il s'est ouvert assez vite. On a pu avoir un entretien téléphonique avec lui. Pablo Servigne, pareil, il est quand même très sollicité et direct. Il m'a accordé 45 minutes au téléphone d'interview et il m'a aussi donné des contacts. Alain Damasio, ça a été un peu plus compliqué. Il a fallu relancer un petit peu, mais parce qu'il n'est pas non plus très, très axé média. Mais en fait, en général, si les personnes accrochent avec la démarche, ça se fait. Et en fait, au culot, hein, des fois, il y a des gens qu'on n'a pas pu avoir. Il y a des personnes qu'on aurait bien voulu avoir, qu'on n'a pas pu. D'autres qui en ont eu au dernier moment. Par exemple, Alexandria Neonakis du jeu The Last of Us, on l'a eu. On avait déjà... Les épreuves non corrigées étaient déjà arrivées. Donc, en fait, on a dû rajouter cette interview après. Mais c'était important pour nous. Du coup, on s'est dit, bon, allez, on la rajoute. Mais des fois, ça prend du temps. Des fois, c'est pour ça que aussi l'enquête est longue. C'est que les personnes mettent des fois plusieurs mois à nous répondre. Et surtout quand c'est des personnalités étrangères aussi. Bon, c'est pas forcément simple. Mais en général, avec un peu de culot, ça fonctionne.
Et alors, donc la revue s'appelle Anticipation, je l'ai dit, donc les trois premiers numéros étaient consacrés au monde post-apocalyptique, à l'humanité augmentée, à l'Odyssée spatiale. Moi, Jeanne, je voudrais te demander quel regard tu portes sur le futur, parce qu'on a l'impression quand même que dans les médias, dans l'opinion publique, il y a quand même un regard dominant, c'est un peu négatif. Voilà, on sent quand même qu'il y a quelque chose de négatif. Hier, notre chroniqueuse Environnement Claire nous parlait donc de l'éco-anxiété qui revient ces dernières semaines. Il y a eu des chiffres qui sont tombés sur l'éco-anxiété, notamment parmi les jeunes. Quel regard toi tu portes sur la manière dont c'est traité, penser le futur? Est-ce que le futur peut être encore pensé positivement?
Bah, c'est un peu le parti pris qu'on a choisi pour le dernier numéro. Pour le coup, quand on voulait traiter des mondes post-apocalyptiques, on voulait pas partir sur un logoré sur l'effondrement, sur tout ce que les problèmes changement climatique et tout ça. Même si on est tous les deux extrêmement sensibles à ces questions-là, on voulait montrer un peu l'espoir qu'il y a derrière. Aussi, je pense que c'est aussi le fait qu'on soit tous les deux assez jeunes. On a tous les deux 27 ans. On n'a pas envie de se dire le monde il est foutu, quoi. On a envie d'un regard un peu positif. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans chaque numéro, en fait. Même le transhumanisme, thématique aussi pas forcément simple, pour le coup, et qui pose plein de questions politiques et sociales, mais comme les mondes post-apocalyptiques aussi. Hein. Mais en fait, on partait du principe que il fallait justement parler de ces sujets-là pour ensuite avoir une réflexion collective au niveau de la société, pour ensuite faire émerger des belles choses, en fait. Il y a plein de belles choses à naître. C'est ce que dit d'ailleurs Pablo Servigne dans une des interviews, dans le numéro 3. C'est que, en fait, le monde d'après, il est déjà là. En fait, il y a déjà plein de choses qui naissent, plein d'initiatives trop cool avec portées par des collectifs, par des personnes très chouettes qui essaient d'imaginer un monde désirable pour demain et qui se bougent pour le mettre en place. Et c'est ça qu'on voulait mettre aussi en avant, quoi. Donc c'est ce qu'on essaie de faire dans chacun des numéros pour pas tomber dans un truc trop trop pessimiste, dystopique, parce que en fait ça nous intéresse pas de dire ah tout va mal, c'est là il y a plus rien à faire, parce qu'en fait si, il y a plein de choses à faire, c'est juste qu'il faut se bouger un peu, quoi.
Alors Anticipation, où est-ce qu'on peut retrouver cette revue du coup?
Dans toutes les librairies du coup. Alors elle sera pas forcément présentée, puisqu'en fait on n'a pas de distributeur et de diffuseur pour l'instant. On travaille avec de l'impression à la demande. C'est peut-être changé, pour le coup, on aimerait bien. Et du coup, il faut le commander, en fait, aller à la caisse et dire, je voudrais tel numéro d'anticipation et dire le nom de mon nom, Jeanne Leveder et puis Marcus Dupont-Bénard. Et en général, ils nous retrouvent dans la base de données, puisqu'en fait, on est distribué par Sodis, qui est un grand distributeur en librairie. Et du coup, il suffit de... qui est en catalogue dans toutes les librairies. Et puis, on peut trouver aussi sur les librairies en ligne, mais nous, on préfère défendre les librairies en physique, parce que les libraires, c'est quand même des bons alliés pour nous, pour le coup. Et puis, on aime beaucoup aussi ce métier-là. On trouve que c'est important de le défendre.
Bon, donc, en tout cas, vous avez pris note des renseignements à la revue Anticipation, à trouver presque partout. Merci beaucoup, Jeanne Leveder, d'être venue dans les studios de SILAB dans l'Inattendu.
Et merci à vous. Merci, Victor. Merci, Jeanne.
Merci de l'invitation.